Les colloques du Collège de France.
Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Collège de France pour ce colloque consacré au génocide, droit et histoire du crime des crimes. C'est à moi que revient l'honneur d'introduire le thème de notre colloque et de vous présenter en 15 minutes la manière dont il est articulé. Je le ferai en tant que juriste et je passerai ensuite la parole à mon collègue et co-organisateur Henri Laurence pour une deuxième introduction plus historique. Donc on sera fidèle à la double discipline ou double dénomination du colloque dans cette introduction aussi. Déclaré pour la première fois comme un crime du droit des gens par l'Assemblée générale des Nations unies en 1946 et interdit ensuite par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, le génocide doit être compris littéralement comme le meurtre ou la destruction intentionnelle, totale ou partielle, d'un peuple ou d'un groupe. Et vous retrouvez ici les trois éléments dont nous aurons beaucoup à discuter dans ce colloque, de ce crime que j'ai mis intentionnellement en trois couleurs dans cet article 2 de la Convention. Le crime de génocide est souvent considéré comme le crime des crimes, et c'est ce que nous avons annoncé dans le titre du colloque. Crime des crimes, car l'un des quatre grands crimes ou crimes considérés les plus graves par le droit international d'abord coutumier, puis conventionnel. Vous avez ici une référence aux crimes les plus graves dans l'article 5 du statut de Rome, le statut de la Cour pénale internationale. Ces quatre crimes les plus graves sont, outre le crime de génocide, le crime contre l'humanité, le crime de guerre et le crime d'agression. Mais l'on parle aussi parfois, pour parler du génocide, de crime des crimes, car le génocide est considéré comme le plus grave de ces quatre grands crimes. C'est pour cela, par exemple, que vous voyez qu'il figure tout en haut de cette liste. Et de ce fait, et ce sera quelque chose à discuter beaucoup, le plus difficile à établir. Contrairement aux trois autres grands crimes, codifiés à nouveau depuis dans les statuts des différents tribunaux pénaux internationaux, et notamment dans le statut de Rome de la Cour pénale internationale en 1998, et vous trouvez ici la retranscription du crime de génocide à l'article 6 du statut, le crime de génocide n'a jamais varié dans sa formulation. Et si vous vous rappelez de la définition que je vous ai montrée il y a quelques minutes dans la Convention de 1948, vous reconnaissez ici l'exacte formulation à l'article 6 du statut de Rome. Donc ce crime n'a jamais varié dans sa formulation, et en comparaison des trois autres, et jusqu'à il y a peu, j'y reviendrai, il a aussi été beaucoup plus rarement invoqué en justice. Il s'ensuit que durant longtemps, ces différents éléments n'ont été que plus rarement interprétés dans la jurisprudence internationale, et ce, que ce soit par les tribunaux pénaux internationaux ad hoc ou spécialisés, comme les tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda ou l'ex-Yougoslavie, et plus tard par la Cour pénale internationale. De cette permanence de la formulation du crime de génocide de 1946 à 1998, combinée à son invocation et à son interprétation, je l'ai dit, comparativement beaucoup plus rare en pratique, certains, dont certains spécialistes présents dans ce colloque, ont déduit que cette interdiction était dotée d'une force normative parmi les plus élevées en droit international, qu'elle avait avant tout une valeur de reconnaissance historique des crimes commis durant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est lié à ces deux éléments qu'elle était revêtue d'un rôle avant tout préventif pour l'avenir. Mais tout cela, c'était sans compter les derniers développements. Depuis une vingtaine d'années, en effet, une évolution significative se fait sentir et l'interdiction du génocide est de plus en plus invoquée et donc interprétée en justice. Et ce, notamment contre des individus génocidaires, grâce aux procès pénaux internationaux, puis nationaux ou hybrides introduits contre eux pour génocide, notamment en ex-Yougoslavie ou au Rwanda, mais aussi plus largement grâce au développement de ce qu'on appelle la compétence pénale universelle au niveau national, qui permet de juger ces individus génocidaires, voire même oblige de juger ces individus génocidaires partout dans le monde. Mais en marge de ces procès pénaux qui sont intentés en responsabilité pénale contre des individus, c'est aussi la violation de l'obligation de droit international qu'ont les États eux-mêmes de prévenir le génocide, obligation que vous retrouvez rappelée ici à l'article 1 de la Convention sur le génocide de 1948. Donc c'est cette obligation des États eux-mêmes de prévenir le génocide qui est désormais invoquée devant les tribunaux internationaux. Et c'est alors la responsabilité de ces États qui est précisée de manière de plus en plus fréquente par la jurisprudence. C'est ainsi que, dès le tournant du millénaire, la jurisprudence de la Cour internationale de justice s'est étoffée autour de l'obligation de prévention du génocide et de la responsabilité notamment de la Serbie pour le génocide en Bosnie. Ce qui a permis à ce contentieux interétatique en responsabilité pour génocide de se développer devant la Cour internationale de justice tient à quelque chose de très particulier qui est ce que vous voyez ici à l'écran, la clause de compétence de l'article 9 de la Convention de 1948. Cette clause est aujourd'hui au fondement de pas moins de 4 procédures contentieuses actuellement pendantes entre des États devant la Cour internationale de justice en lien avec le génocide allégué au Myanmar, en Ukraine et à Gaza. Donc vous avez au début de la liste en noir les affaires déjà tranchées, au tournant du millénaire. Ensuite, vous avez les 4 affaires aujourd'hui pendantes. Et on a une toute jeune affaire qui n'a duré en fait que 2 mois, qui a été introduite en mars 2025 et rayée du rôle pour irrecevabilité. On pourra y revenir en mai 2025. Ce qui explique une partie du succès de cette clause de l'article 9 de la Convention de 1948, c'est qu'il n'existe pas de base de compétences similaires de la Cour internationale de justice pour les 3 autres grands crimes que j'ai mentionnés tout à l'heure. Les États vont donc avoir tendance à recourir à cette clause afin d'obtenir un accès à la Cour internationale de justice pour juger des crimes commis au sein d'un conflit armé. Mais pour cela, évidemment, il faut qu'ils qualifient ces crimes de génocide. Ce que l'on remarque en outre, c'est que ces États, la Gambie, l'Afrique du Sud ou le Nicaragua, font de plus en plus usage de ce droit sans être partis au conflit armé en cause et le font même contre des États qui ne sont pas les premiers concernés par ce conflit armé. Regardez l'affaire Nicaragua contre Allemagne, par exemple. Et pour ce faire, eh bien, ils invoquent la nature erga omnes, envers tous, et omnium, de tous, de l'interdiction du génocide. Surtout, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'ils le font désormais même au cours du génocide allégué, plutôt que d'attendre sa fin, de manière à pouvoir le prévenir ou le faire cesser. Au fil de cette jurisprudence, qui est une nouvelle jurisprudence, je l'ai dit, le crime de génocide et ses conditions ont peu à peu été précisés davantage. En fait, plus le génocide est invoqué devant les tribunaux internationaux, qu'il s'agisse de tribunaux pénaux spéciaux, de la Cour pénale internationale ou de la Cour internationale de justice, plus ces critères sont, voire vont devenir exigeants. Probablement de manière à en préserver ce avec quoi j'ai commencé mon introduction, c'est-à-dire son statut de crime des crimes. C'est ce que l'on voit bien, par exemple, et nous y reviendrons cet après-midi, avec le critère de la seule conclusion raisonnable utilisé désormais pour établir l'élément de l'intention génocidaire. Alors, face à cette évolution rapide de la jurisprudence internationale en matière de génocide et des nouvelles questions qu'elle soulève, un bilan s'imposait et c'est ce que propose ce colloque. Un retour sur l'histoire du crime de génocide peut en effet nous éclairer sur la manière de négocier au mieux les difficultés qui pèsent désormais sur l'avenir du crime des crimes. Nombreux d'ailleurs sont ceux qui souhaitent aujourd'hui réanimer la controverse qui a opposé Raphaël Lemkin à Ernst Lauterpacht durant les années 40, une controverse rendue inoubliable par l'ouvrage de Philip Sands, Retour à Lemberg. Vous avez Lemkin à gauche et l'outer part, à droite de ce portrait. En bref, mais vous le savez certainement déjà, cette controverse opposait ces deux auteurs et spécialistes sur les vices et les vertus respectifs du crime de génocide et du crime contre l'humanité. Le crime de génocide défendu par Lemkin se concevait et se conçoit comme un crime commis contre un groupe et donc contre ses membres en tant que membres du groupe. Alors que le crime contre l'humanité défendu par l'outer part se concevait et se conçoit comme un crime commis contre des individus, systématiquement certes, mais contre eux en tant que personnes humaines. Vous avez ici la définition du crime contre l'humanité qui est à l'article 7, juste après l'article 6 et le crime de génocide. Aujourd'hui, et rétrospectivement, certains donnent raison à l'outer part, reprochant au crime de génocide d'avoir alimenté plutôt que jugulé la fragmentation des identités collectives et par là renforcé la violence génocidaire. Comme l'outer part, ces auteurs regrettent en outre la victimisation collective et la hiérarchisation des victimes, que la reconnaissance ou non du crime de génocide dans un contexte donné, la Bosnie mais pas la Croatie, a induite. D'autres, au contraire, demandent à ce que l'on revienne à la conception du crime de génocide qui avait été proposée par Lemkin. Tant sur le plan du processus, au lieu de l'intention, ou sur le plan du groupe visé, puisque Lemkin visait tout groupe social et culturel en général, et pas seulement un groupe national ou ethnique. Cette conception plus large, défendue par Lemkin, a été écartée pour des raisons de compromis politique après 1945, notamment, et nous y reviendrons avec Henri Laurence, pour absoudre ex ante ou ex post l'URSS, les États-Unis et Israël, et dès lors obtenir leur ratification de la résolution de 1946, puis de la convention de 1948. En fait, étant donné la place centrale qu'occupe l'histoire au sein du raisonnement juridique en matière de génocide, et les juristes dans cette salle le confirmeront, je donnerai simplement pour exemple ici la place centrale qu'occupe l'histoire au titre des sources coutumières de l'interdiction du génocide, au titre de preuve des éléments constitutifs d'un génocide, ou encore au titre d'établissement de la causalité dans l'attribution du comportement de génocide, voire de responsabilité pour génocide, eh bien, étant donné la place centrale qu'occupe l'histoire au sein du raisonnement juridique en matière de génocide, mais aussi à l'inverse, étant donné la place du droit et donc de l'incrimination du génocide dans l'histoire, il nous a semblé, à Henri Laurence et moi-même, tout à fait intéressant de procéder à ce bilan sur le crime de génocide sous la forme d'un dialogue entre juristes et historiens. Alors, il ne s'agit pas, bien entendu, contrairement à ce que certains pourraient craindre, de confondre le droit et l'histoire du génocide. Chaque discipline, chaque pratique doit en effet pouvoir développer son concept de génocide propre, un concept juridique et un ou plusieurs concepts historiques. Surtout, il est essentiel de reconnaître les différences entre les méthodes respectives de nos deux disciplines, normatives pour la mienne, par opposition, j'imagine, mais vous me direz, par opposition à explicative pour les historiens. Et surtout la différence fondamentale entre nos deux champs de vérité, des champs de vérité propres, judiciaires pour nous les juristes, par opposition à historiographique pour les historiens. Mais plutôt que de renvoyer simplement historiens et juristes dos à dos, comme l'a fait Emmanuel Macron le 13 mai dernier en déférant la qualification du génocide à Gaza exclusivement au tribunal de l'histoire, au mépris du rôle des tribunaux de droit international, tribunaux qui, je le rappelle, se sont déjà en partie prononcés, comme la Cour internationale de justice, le 21 mai 2024, sur le risque réel et imminent de génocide. Eh bien, nous avons choisi durant cette journée d'inviter des juristes et des historiens, plutôt qu'à simplement contempler leurs différences, nous avons décidé de les inviter à nouer un dialogue. Et à cette fin, pour que le dialogue ait véritablement lieu, plutôt que vous assistiez à une juxtaposition d'exposés juridiques puis historiques, donc à cette fin de création d'un véritable dialogue, nous avons composé quatre paires de juristes et d'historiens, toutes et tous spécialistes du génocide, contrairement à nous deux. Donc nous nous contentons de les inviter et de les faire parler. Nos débats seront en effet articulés autour des quatre questions que vous voyez ici à l'écran, quatre questions qui constitueront les quatre parties du colloque. Interdiction du génocide, des violences et légendes noires aux crimes de droit coutumier, auteur du génocide individuel, collectif et ou institutionnel, conditions du génocide, intention et ou processus génocidaire, et justice et vérité du génocide, passé qui ne passe pas et assassin de la mémoire. Alors pour les expliquer, non seulement par les mots, mais aussi en images, je m'appuierai sur les dessins de mon compatriote et complice graphique, le dessinateur Chapat, qui nous a autorisé à reprendre ces dessins. La première question, bien illustrée à mon avis par ce dessin, porte sur la nature et la source coutumière de l'interdiction du génocide, sur celle de son éventuelle rétroactivité, et donc sur l'existence ou non d'une pratique générale de réprobation à différents moments de l'histoire et jusqu'à nos jours, et par extension sur les formes que prenait cette réprobation, et notamment celle des grands récits de terreur, comme les légendes noires. La deuxième question concerne les auteurs du génocide, et notamment, et je l'illustre à nouveau grâce à ce dessin, les rapports historiques entre individus et groupes dans la perpétration du crime et dans l'articulation ensuite entre responsabilité individuelle et collective et responsabilité des institutions comme l'État ou comme une organisation internationale, dans ce dessin, l'ONU, ou, comme il en est question en ce moment, l'Union européenne. La troisième question porte, je l'ai dit, sur les conditions ou critères du comportement génocidaire et notamment sur l'importance de l'intention par opposition au processus, ce dernier étant bien entendu souvent utilisé à des fins probatoires ou du moins de présomption raisonnable de l'intention. Enfin, la quatrième et dernière question qui nous occupera concerne le rôle de la justice, judiciaire ou non, en matière de génocide, à des fins d'établissement d'une vérité historique, et à l'inverse, le rôle de l'histoire et de la culture de la mémoire lorsqu'il s'agit d'obtenir cette justice ou au contraire de ne pas revivre l'injustice, voire de ne pas la faire revivre aux autres. Le traitement de ces questions sera bien entendu l'occasion de revenir sur différents cas de génocide dans l'histoire, y compris dans celle du droit international. Mais nous avons choisi un programme par question plutôt qu'un programme par cas. Mais rassurez-vous, nos intervenantes et intervenants ont toutes et tous pour spécialité des cas de génocide différents. Qui de la Révolution française, de la Shoah, de l'Allemagne nazie ou encore de l'écocide parmi les historiens ? Et qui de la RDC, du Rwanda, de la Bosnie, du Myanmar, de l'Arménie ou de Gaza chez les juristes ? Avant de passer la parole à mon collègue et ami Henri Laurence pour la suite de notre introduction, je me permets de remercier très chaleureusement tous nos intervenants et intervenantes, toutes nos présidentes et présidents de séance, d'avoir accepté notre invitation à travailler ensemble sur un thème aussi grave, qui est devenu toujours plus grave cette année, et de le faire un vendredi 13 de surcroît. Je remercie bien sûr aussi toutes nos collaboratrices et tous nos collaborateurs de leur implication dans son organisation. Sans elles, ce colloque n'aurait pas pu avoir lieu. Je remercie beaucoup, notamment Sylvie Sportouche et Camille Michel, et bien sûr toute l'équipe de la régie. Merci et bon colloque.
Bien, merci, salutations à tous. Comme d'habitude, Samantha a déjà tout dit, donc il ne me reste plus que faire le reste, selon l'expression convenue. La phrase du président Macron du 13 mai était « Ce n'est pas à un président de la République de dire ceci est un génocide, mais aux historiens en temps voulu. » Bon, évidemment, amener de violentes protestations des juristes, puisqu'après tout, c'est aussi et surtout un concept juridique. Alors, je ne reviens pas, puisqu'on a mentionné tout à l'heure la Convention pour la prévention et la répression du crime des génocides du 9 décembre 1948, même semaine où on vote aussi à l'ONU la Déclaration universelle des droits de l'homme et la résolution 194-3 sur le droit au retour des Palestiniens. Le tout au palais de Chaillot, puisque l'Assemblée générale s'était déplacée au palais de Chaillot en 1948. Mais comme on l'a déjà dit tout à l'heure, attendre qu'un génocide ait eu lieu pour le caractériser interdit toute prévention d'un génocide, puisque justement il faut empêcher qu'il soit commis. Alors là, nous avons encore ces nombreuses intersections, et c'est le sujet d'aujourd'hui, entre Thémis et Clio. Les deux muses se regardent, se font des sourires, se font des croches en jambes, et ainsi de suite. Thémis a fourni d'innombrables documentations à Clio, et Clio, n'est souvent pas d'accord avec Thémis parce qu'il trouve que les définitions de Thémis sont un peu restreintes, et tandis que Clio est plus large. Alors, si j'en crois mon collègue Hublin du Collège de France, on peut trouver des traces de génocide à partir du néolithique. De ce point de vue-là, c'est pas un phénomène récent. Si vous ouvrez la Bible, vous avez un génocide dedans. Alors, c'est vrai que les exégètes bibliques font le boulot nécessaire pour minimiser et contextualiser le contenu du texte sacré, mais il y a des contenus génocidaires dans la Bible et certains mouvements politiques ou humains ont fait référence à ce contenu biblique. On connaît aussi la terrible réputation des Assyriens, dont témoigne une très abondante iconographie à l'époque. On sait que la guerre des Gaules de Jules César, si on en croit l'intéressé, et si on fait un calcul de tous les chiffres de pertes humaines qu'il indique dans les commentaires, on arrive à 2 millions de morts. Ce qui est une dimension assez génocidaire. Et jadis, Simone Veil, avec celle avec W, pas avec V, n'hésitait pas à dire « L'analogie entre le système hitlérien et l'ancienne Rome est si frappante qu'on pourrait croire que seul depuis 2000 ans, Hitler a su copier les Romains. » Alors c'est un texte qui date de 1939-1940. Et on pourrait attribuer à Simone Veil la première réductio ad Hitlerum, selon l'expression que plus tard forgera le philosophe Léo Strauss en 1951-53. Mais les Romains eux-mêmes l'avouent. Si vous prenez Tacite, le célèbre passage de Tacite dans la vie d'Agricola, où le chef des tribus calédoniennes s'oppose aux Romains et fait tout un discours qu'évidemment il n'a pas rédigé, c'est du pur Tacite, mais tout est dit. Le monde entier est leur proie. Ces Romains qui veulent tout ne trouvent plus de terre à ruiner, alors c'est la mer qu'ils fouillent. Riches, leurs ennemis déchaînent leur cupidité. Pauvres, ils subissent leur tyrannie. L'Orient, pas plus que l'Occident, n'a calmé leur appétit. Ils sont les seuls au monde qui convoitent avec la même passion les terres d'abondance et d'indigence. Raflés, massacrés, saccagés, c'est ce qu'ils appellent à tort asseoir le pouvoir. Font-ils d'une terre un désert ? Ils diront qu'ils pacifient. Et je trouve que cette dernière phrase a des échos terribles aujourd'hui. Alors, les exemples de ce genre sont multiples. On pourrait dire que l'extermination de peuples serait l'un des grands invariants de l'histoire, du fait de son étroitesse association avec la guerre. Les Mongols ont été ainsi identifiés à une politique de terreur, au point que les Européens les identifiaient aux enfers. C'est pour ça que les Tatars sont devenus dans les textes européens les Tartares, parce que le Tartare, c'était le fleuve des affaires. Donc vous connaissez l'origine du steak. Alors c'est vrai, aujourd'hui, certains tentent de réhabiliter les Mongols, et je ne suis pas compétent sur ce point. Ce qui est certain aussi, c'est que ce type de violence est en général associé avec le sacré, soit du côté de ceux qui commettent ces crimes, comme le rappellent les guerres dites de religion, soit, ce qui semble plus récent, la sacralisation des victimes, que l'on voit en particulier dans les représentations de la Shoah. Dès que, dans un film, téléfilm, etc., on évoque un camp de concentration, un camp d'extermination, on bascule sur des images de sacrées. On ne peut associer exclusivement les exterminations de peuples avec la modernité européenne au sens large du terme. En revanche, dès le XIXe siècle, se sont affrontées les deux grandes thèses sur l'usage de la violence, d'abord à partir de la Révolution française, et mon ami Jean-Clément Martin pourra en redire certainement beaucoup mieux que moi. La première thèse était celle d'un projet de constitution d'un homme nouveau à partir d'un projet idéologique. En gros, une abstraction tentant de modeler le monde à son image. On peut penser aux origines de la France contemporaine de Taine, par exemple. L'autre thèse, celle défensive plutôt, est celle des circonstances. La violence dérive du fait du doublet guerre civile, guerre extérieure, d'où la nécessité de mesures extrêmes. On se trouve ainsi dans la loi des conséquences inattendues. La force des choses attribuée à Saint-Just, je cite, « La force des choses nous conduit peut-être à des résultats auxquels nous n'avons pas pensé. » C'est cette loi des circonstances inattendues. Alors donc, on a deux types d'explications. La première fait porter la cause dans le contenu même du projet, et l'histoire n'est que la réalisation progressive du projet. Autrement dit, les circonstances ne font que révéler progressivement ce qui était dans le code génétique du projet originel. La seconde explication fait porter la responsabilité sur les circonstances qui produisent un mécanisme de radicalisation progressive du sujet. Pour simplifier et caractériser les choses, on dit que d'un côté, on a un intentionnalisme, et de l'autre côté, un circonstancionnalisme, si je me permets ce terme. En général, l'analyse historique postérieure combine les deux explications, en en rajoutant d'autres, puisque ça, c'est le bénéfice des historiens, la causalité en histoire est inépuisable, et donc on trouvera toujours de nouveaux ordres d'explication. Le XIXe siècle, celui qui va de 1815 à 1914, a été en apparence un monde de paix, si on se concentre sur l'Europe elle-même, d'où l'illusion d'un progrès continu de la civilisation. Pourtant, les contemporains n'ignoraient pas l'existence de violences de masse. La guerre civile chinoise de 1851 à 1864 aurait fait directement, je parle sous le contrôle de Madame Chen, de 20 à 30 millions de morts, soit l'équivalent d'une guerre mondiale. L'histoire coloniale connaît ces violences de masse, dont la plus connue est celle de la conquête de l'Algérie, en particulier dans la décennie 1840. Et il y a eu des violentes protestations que le gouvernement français rejetait en disant « Nous ne voulons pas de cette philanthropie qui ne connaît rien au véritable problème. » Mais si on regarde ce que j'avais fait jadis pour un autre travail, les discours parlementaires de la monarchie de Juillet, on parle radicalement d'extermination de la population arabe d'Algérie. L'adage de base dans tous les phénomènes de violence coloniale, c'est que face à des barbares, on ne peut agir que de façon barbare. Parce qu'ils ne sont pas civilisés, donc ils ne comprennent pas les règles du jeu. Ce qui est un peu facile au passage, mais bon. Et dans le XIXe siècle, il est admis que des peuples entiers sont condamnés à disparaître. En particulier les populations indigènes d'Amérique, lapsus, mais aussi des îles du Pacifique et de grands esprits comme Clemenceau, qui prennent la défense des peuples colonisés, disent quand même, j'ai trouvé le discours de Clemenceau en 82, oui, c'est pas les îles du Pacifique, à propos de l'Égypte, c'est pas les îles du Pacifique où les populations sont condamnées à disparaître, à la fois sur la violence directe et sur le choc moral, psychologique et autres de la conquête européenne. Les convulsions internes de l'Empire ottoman ont mis en avant au XIXe siècle le concept d'atrocité, d'abord dans les Balkans et ensuite en Anatolie. Ce sont les fameuses crises d'Orient auxquelles j'ai déjà consacré deux volumes et il y en aura deux suivants. Notre cadre contemporain prend forme durant la Première Guerre mondiale avec l'angoisse de la destruction en Allemagne, angoisse alimentée par le terrible blocus allié, blocus alimentaire en particulier, mais aussi du rejet de l'Allemagne en dehors du domaine de la civilisation. Mais là, je pense que mon ami Christian Grau pourra éventuellement me corriger sur ce point. Et cela a été, c'est là où on est au centre de ce qu'en 1900, durant la Première Guerre mondiale, on a appelé les atrocités allemandes. Et c'est là aussi, en pire, ce qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Dès lors, il a fallu se doter, dans le contexte de la fin de la guerre, de 40, de moyens de penser ces réalités et de se doter par là même d'instruments juridiques qui ont la double tâche de sanctionner les coupables et de prévenir la réitération de ces crimes. On le voit dans la déclaration publiée à Moscou le 30 octobre 1943, sur les atrocités allemandes, terme utilisé, commises en Europe occupée. Comme on le sait, ces instruments de pensée, mais qui sont aussi des instruments de droit, ce sont donc les fameux crimes contre l'humanité et crimes de génocide. Et on sait bien, on revoit ce livre magnifique, Retour à Lindbergh, que ces crimes contre l'humanité qu'il a emporté à Nuremberg, mais qu'ensuite, dès 1946, on met en avant le génocide jusqu'à la décision de 9 décembre, enfin, du vote du 9 décembre 1948. Mais on va se trouver dès le 9 décembre 1948 sur le fait que ça n'a été possible que parce qu'il n'y avait pas d'opposition du Bloc de l'Est. Donc, dans la clause de génocide, on n'a pas mis les groupes sociaux. Ah, parce que sinon, on aurait pu accuser l'Union soviétique de génocide des Koulaks dans la Russie stalinienne. Ce qui va poser un certain nombre de problèmes pour la compréhension même de cette notion de génocide. Alors, ma collègue et surtout amie, a donné la situation du crime d'extermination, enfin de contre l'humanité. Et je trouve qu'il y a, dans la définition telle qu'elle est dans le statut de Rome, des échos terribles sur la situation d'aujourd'hui. Je cite, « Par extermination, on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculé pour entraîner la destruction d'une partie de la population. Par déportation ou transfert forcé de population, on entend le fait de déplacer de force des personnes en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs de la région où elles se trouvent légalement sans motif admis en droit international. » Donc on voit très bien que les clauses du crime contre l'humanité, qui renvoient à des actes commis, sont tout à fait claires et illustre parfaitement des situations que nous connaissons maintenant. En revanche, et on y revient, la notion de génocide connaît une double difficulté. La première, c'est l'intention. Comment déterminer une intention ? Et si on détermine l'intention par le fait qui s'est passé, On ne voit pas trop pourquoi on aurait besoin de mettre attention dans ce cas-là. Mais surtout, l'autre problème, c'est la notion de groupe. Parce que, à la limite, le crime de génocide reprend la définition des génocidaires. Après tout, les Arméniens étaient des citoyens ottomans. Donc, faire le génocide des Arméniens comme un groupe distinct des Ottomans, c'est déjà accepter que les Arméniens étaient différents des autres citoyens de l'Empire ottoman. Parler du génocide des Tutsis équivaut à admettre la distinction entre Tutsis et Hutu. Le Cambodge ne serait pas un génocide parce qu'on a massacré que des Cambodgiens. Alors, c'est vrai, on a trouvé quelques Vietnamiens pour pouvoir dire que c'est un génocide, mais fondamentalement, on ne pouvait pas me dire que c'était un génocide selon la définition de Lemkin. Mais je laisse ça aux juristes de préciser ce point. Alors, comment trouver l'intentionnalité ? Dans les résultats même, mais si on attend les résultats, on se trouve dans ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour voir si c'est un génocide, il faut attendre qu'il ait eu lieu. Dans la déclaration publique des acteurs, souvent on trouve des formes extrémistes de discours qui ne correspondent pas du tout à des prises de décision dans le groupe. En général, le motif le plus souvent annoncé pour justifier un génocide, c'est l'existence d'une menace immédiate ou à long terme. Autrement dit, les génocidaires considèrent la réaction comme préventive et sécuritaire. C'est de l'ordre de l'autodéfense. On y ajoute aussi une volonté d'ingénierie ethnique ou sociale. On parlait pour les jeunes Turcs d'ingénierie ethnique et pour sociale pour les Koulaks. Alors, l'évolution contemporaine a centré l'attention sur le génocide défini comme le crime des crimes, surtout à partir des années 1990. C'est à ce moment-là seulement qu'on a des tribunaux jugeant des crimes de génocide. Avant, ils n'existaient pas. Donc, c'est par rétrospection que l'on définit un certain nombre de génocides dans l'histoire. Et en même temps qu'on fait la rétrospection, il s'individualise. Ainsi, la destruction des Juifs d'Europe durant la Seconde Guerre mondiale est passée par judéocide, holocauste et maintenant, surtout enfin, en Europe, Shoah. Les Ukrainiens ont l'Holodomor, les Arméniens ont le Metsgegen, la grande catastrophe, les Assyro-Chaldéens ont Saïfo, l'épée, et ainsi de suite. C'est-à-dire que le génocide s'individualise avec un nom propre. C'est tout à fait spécifique. Et le dernier élément, puis j'arrêterai là, mes chers amis, c'est que, comme on ne peut pas faire de procès rétrospectif, ces génocides sont reconnus par des actes de droit qui sont des déclarations publiques, généralement d'assemblées parlementaires. Ce qui fait qu'on est beaucoup plus dans le politique que dans le judiciaire, même si on peut créer ensuite des actes, des délits de négationnisme. Donc voilà un peu ce que l'historien peut dire en introduisant des gens beaucoup plus compétents que lui qui vont prendre ma succession. Je vous remercie.
Collège de France. Le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.